Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire. Trois succursales pour mieux vous servir, comptoir, livraison et salle à manger. Pizzeria67.com. On goûte la différence.
96.9, l'alternative radiophonique.
On parle de la course à la chefferie du Parti conservateur. Les auditeurs réguliers savent qu'on a eu le débat entre les candidats. Ça s'est terminé samedi avec une victoire d'Éric Duhaime. Ceux qui ont écouté le débat doivent savoir ça. Une victoire haut la main. Il est au bout du fil. Merci d'être avec nous. Félicitations.
Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Ça va être moins formel qu'au débat, je le dis tout de suite. On peut se citoyer. J'aime ça formel, un débat. J'ai toujours de la misère avec tout ce que j'ai entendu à peu près de débat. J'ai aussi entendu d'autres entrevues. Il y a eu une belle série après la victoire. Oui. Et il y a quelque chose que j'ai retenu qui revenait souvent, c'était que les intervieweurs disaient qu'il va falloir que tu parles d'autres choses que de COVID, Éric, oui. Parce que ça va finir.
Oui.
Mais ça dépend beaucoup de quand. Moi, je suis pas un si grand optimiste. J'ai l'impression que ça pourrait se chevaucher la fin du COVID puis la zone des élections.
On se disait il y a un an, hein, ça va bien aller. Ben on pensait que l'été passé, c'était pour bien aller. Ça fait un an, puis ça n'a pas bougé beaucoup. Ben, écoutez, le premier ministre, en tout cas, au moins jusqu'au 24 juin, ça ira pas mieux. Puis on va, nous, dans notre région, on va rester encore en rouge foncé, au moins jusqu'au 3 mai. Mais même après que la COVID soit passée, mettons que les optimistes ont raison et que ça se termine cet été, les ravages de la tornade COVID vont rester. C'est-à-dire, le système de santé, là, on l'a vu, là, il est dans un état pitoyable. Pas normal que quand il y a 150 personnes aux soins intensifs, pour une population de 8 millions, que le système craque de partout, là. C'est pas normal que les finances publiques, ça soit. Le Canada est le pire pays au monde, là, en termes d'endettement public pendant cette crise-là.
Ouais.
Fait qu'il va y avoir une crise des finances publiques. Il y a un système de santé à réformer. Et ça, malheureusement, les quatre partis actuellement représentés à l'Assemblée nationale sont tous d'accord. C'est tous des défenseurs du monopole public et du mauvais système qui nous a laissé tomber pendant la crise. C'est tous des partisans qui veulent repousser au calendre grec l'équilibre budgétaire, qui veulent arrêter de pelleter là, des dettes et des déficits sur le dos de la prochaine génération. Donc, les conservateurs vont être les seuls à offrir véritablement une alternative. Et ça, c'est post-COVID, le post-crise sanitaire.
Mais pendant COVID, il y a beaucoup de gens qui font de la prédiction, puis le public potentiel du Parti conservateur est plutôt anti ou mesure, ou en tout cas, au moins pour une partie d'entre elles, veut savoir quand ça va se finir, veut savoir le meilleur prédicteur là-dessus, le meilleur Nostradamus. Pour aider des gens à t'évaluer, as-tu une idée, une estimation du moment où tu penses que ça va se terminer réellement au Québec?
Oui, ceux qui pensent qu'il aurait fallu commencer déjà à déconfiner, il y a des trucs qu'on n'aurait jamais dû faire. Les attaques contre les enfants particulièrement n'étaient pas nécessairement justifiées. Il n'y a pas de science là, pour dire que le masque à des enfants de 7 ans, ça a des bénéfices. Il faut savoir qu'ils sont pas porteurs du virus. Il faut savoir qu'il y a même des scientifiques. Là, la Horacio Arruda britannique là, disait que le masque dans les écoles, c'était pas nécessaire, là, basé sur la science. Fait que tu sais, Horacio Arruda nous disait ça aussi, même pour les adultes. Rappelez-vous, il y a un an, le masque, c'était dangereux, puis ça avait l'effet contraire, celui recherché. Mais moi, ce que j'ai pas apprécié depuis un an et quelques mois, là, déjà, quelques semaines déjà, c'est le fait que on ne sait pas ce qui est scientifique de ce qui est politique dans les décisions qui sont prises au Québec. Par exemple, encore maintenant, là, ce soir, dans 2h30, on a encore un couvre-feu, là. Puis il n'y a aucune preuve que ce couvre-feu-là a des bénéfices réels. On était
deux courbes se suivent, Éric, ça doit être une causalité. Ils nous parlent de science en nous disant ça. La première chose que tu apprends à l'université, c'est que c'est pas parce qu'il y a deux courbes qui se suivent qu'il y a un lien de causalité, attelle-toi à le prouver. Puis on est très loin d'avoir droit à ça. Là.
La même chose sur la semaine passée là, avec le cafouillage sur les masques à l'extérieur. On a des études internationales qui disent que 0,1% des éclosions se produiraient à l'extérieur. Quand on croise quelqu'un sur la rue et qu'on marche, même si on n'a pas de masque ou qu'on court, il y a potentiellement pratiquement pas de danger. Ça, c'est pour moi qui le dis, c'est la science. Puis malheureusement, le gouvernement n'écoute pas ça. Ils veulent toujours en faire plus, et ça a des impacts. Parce que faut arrêter de penser qu'il faut éviter les cas à tout prix comme si c'était à coup nul. C'est pas vrai, là. On va avoir des faillites en quantité record. On va avoir des gens qui vont perdre leur job. On a de la détresse psychologique au Québec. Là. Vous le sentez dans vos milieux, dans vos familles, dans vos amis. Il y a des enfants qui vont pas bien du tout à l'école. Il y a des impacts majeurs qui sont en train d'avoir lieu. Puis il y a une raison qu'au Québec, ça va être pire, parce qu'on a été pire dans le confinement. Fait que tous ces impacts-là, on va les payer plus cher qu'ailleurs. Fait que c'était pas à coup nul, là, toutes ces décisions-là. Ça va prendre une évaluation de la gestion de crise. Évidemment, François Legault n'en veut pas.
Non.
Pas plus qu'il veut une enquête publique et indépendante sur l'hécatombe des CHSLD.
Surprise.
Donc, ça va prendre de la transparence à un moment donné aussi.
Puis dans des choses plus abstraites, il y a énormément de conséquences aussi qui vont être encore là pour des décennies, notamment au niveau de la liberté. On était habitué plus que jamais, plus rapidement que jamais, un spruit incroyable de se faire gérer. On était déjà réglementé, encadré, puis quasiment comme du bétail dans un enclos qui se resserre à part ça. Puis, tu sais, c'est pas un péronisme. L'enclos se resserre sans cesse. La dernière, c'était la bière à la chasse, là, toujours à base de cas anecdotiques. Faut défaire ça. Beaucoup de gens s'entendent là-dessus. La question, c'est comment on fait? Puis j'ajoute, il y a une bonne partie de la réglementation qui vient du municipal. As-tu des ambitions de peut-être encadrer davantage les pouvoirs municipaux si t'en avais les moyens, si l'élection était glorieuse pour toi en 2022?
Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a... Tu as parlé des libertés puis des droits fondamentaux des gens, là. Les gens qui vont restreindre nos libertés comme individus puis nos droits démocratiques, ils ont le fardeau de la preuve. C'est à eux de prouver que leurs mesures ont une efficacité, parce que c'est pas quelque chose que tu peux brimer comme ça juste parce que peut-être que, ou parce que des probabilités que, il faut que t'aies des preuves, puis t'as le fardeau de la preuve. Puis les gens qui veulent déconfiner, c'est pas eux qui ont le fardeau de la preuve, là. C'est ceux qui veulent leur enlever des libertés puis des droits démocratiques.
Normalement.
Si c'était juste pour une semaine ou un mois, peut-être qu'on pourrait dire, OK, oui, peut-être qu'en cas de doute. Mais là, ça fait plus qu'un an, puis on voit pas le bout, là. Et c'est ça qui est grave. 55 décrets qui ont été passés. Là. Ça veut dire que depuis plus qu'un an, le premier ministre, à tous les 10 jours, le Conseil des ministres renouvelle ce décret-là. Il n'y a plus de démocratie. Le Parlement n'a plus d'impact. Les députés n'ont plus d'impact. Les ministres n'ont plus d'impact. Il peut même passer par-dessus les décisions des tribunaux. Il peut même octroyer des milliards de dollars de contrats sans appel d'offres. Jamais dans l'histoire du Québec, un seul homme a eu tous les pouvoirs entre ses mains. Puis moi, je trouve que c'est une dérive démocratique. Il y avait un fardeau de la preuve de nous prouver que c'était nécessaire. Même encore aujourd'hui, il faut nous prouver qu'il y a que c'est réel, qu'on a vraiment besoin d'avoir un état d'urgence sanitaire. Moi, j'en vois pas. Puis il faut regarder juste les morts par jour, là. Je veux pas banaliser puis minimiser, au contraire, là. Des drames humains pour chaque famille où ça arrive. Mais on parle de quelques morts par jour, alors que c'était 150 il y a un an par jour.
Ça reste anecdotique. De la décentralisation, j'entends que ça serait une bonne piste de solution. On vient de parler avec un chroniqueur qui est natif de Suisse qui nous disait que les lois COVID sont votées par référendum aux trois mois. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait un peu plus de démocratie? Parce qu'il y a quand même une limite à ça. Faut quand on obtient le pouvoir, on veut gouverner aussi à un moment donné.
Oui, oui. Mais c'est parce que l'urgence sanitaire, l'état d'urgence, oublions le sanitaire, l'état d'urgence, normalement, c'est en période de guerre. C'est sûr que là, s'il y a des bombes qui commencent à nous tomber sur la tête parce qu'on est attaqué par je ne sais pas qui, mais là, c'est pas pareil. Mais on met la Chine.
Ça serait la Chine, mais bon.
Mais on n'est pas dans cette dynamique-là du tout. Là. C'est pas ça qui nous arrive. Là. Et oui, il faut croire qu'il y a un assentiment démocratique. Tu peux pas continuer comme ça. Puis le problème aussi, l'autre problème qu'on a, c'est que non seulement le gouvernement s'est donné tous les pouvoirs, mais en plus, on n'a pas un, on a trois partis d'opposition qui ne font pas leur travail présentement. C'est leur job de nous défendre. Il y a 46% des Québécois, selon le dernier sondage CROP, qui pensent qu'il est temps d'ouvrir le Québec, de déconfiner, d'enlever le couvre-feu. Il n'y en a pas un. La semaine passée, ils ont voté 125 sur 125 en faveur des mesures sanitaires abusives du gouvernement Legault. Est où l'opposition? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal.
L'opposition, quand ils viennent au pouvoir, ils sont toujours en mode rajouter des règlements puis des lois. Okay. De toute façon, ils sont habitués à ça. Ils sont pas dépaysés. Ils trouvent pas pire, là, finalement. Puis là, c'est vrai que ça va finir par se finir, cette histoire-là. Et si c'est pas le Parti conservateur qui le fait, redonner des libertés, revoir les règlements en général pour redonner des libertés, ça arrivera jamais. Ça va toujours être de plus en plus. On se projette dans 50 ans. Il va falloir appeler à la ville pour aller pisser. Comment Éric Duhaime veut revirer cette tendance-là, en général, pas juste avec le COVID?
Moi, j'ai toujours été un gars, puis c'est pas, ça n'a rien à voir avec la COVID. Là, j'étais comme ça bien, bien avant. Mais moi, j'ai toujours été très, très, très questionneux puis sceptique quand le gouvernement s'invite dans nos vies. Puis c'est toujours pour des bons prétextes, mais ça a souvent des effets pervers non désirés. Puis c'est au total, on se rend compte que son intervention elle a plus de méfaits que de bienfaits. Et moi, pour moi, là, c'est toujours, puis j'ai toujours été comme ça. Mon premier réflexe, c'est toujours de dire, on a-tu vraiment besoin que le gouvernement se fourre le nez là-dedans? Et moi, je trouve que le gouvernement au Québec est beaucoup trop présent dans nos vies et dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est une philosophie générale. Là. C'est les idées qui vont m'animer pour prendre des décisions. J'ai toujours ce filtre-là.
Bon.
C'est dans ma boussole de dire, gars, si on est capable, pas de gouvernement, puis avec du gouvernement, si c'est pas clair les deux, c'est sûr que je vais y aller puis je vais laisser le monde libre.
Il y a un phénomène médiatique là-dedans aussi. Si tu fais rien avec une anecdote, ben tu t'es pogné de derrière et tout ça. Parlons un peu des médias au Québec qui maintenant sont financés de façon très, très forte par le gouvernement avec les publicités COVID, là, c'est des dizaines de millions de dollars par mois.
Oui.
Québécois, ça ressemble à... C'est des centaines de millions qui ont été reçus, puis c'est le plus proéminent au Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour garder une meilleure variété médiatique? C'est le quatrième pouvoir, sans tomber dans toujours plus d'argent et encore là, de l'arbitraire, parce que c'est choisi. On est une station de radio communautaire ici. C'est 67 000 piastres par année qu'on reçoit. C'est une semaine de vacances pour Céline Galipeau, là, ça. Là.
Ouais,
c'est au fédéral.
C'est peanuts. Mais sauf que c'est ça, c'est un gros, gros problème que tu soulèves là, parce que pendant la crise, on le voit, là, il y a vraiment une pensée unique médiatique dans plusieurs médias québécois. Puis ça représente pas la diversité de la population. Ça, c'est un gros problème. Puis le gouvernement utilise ça. Moi, ils m'ont barré dans certaines stations. Là, les animateurs disaient qu'ils allaient me recevoir. Puis ça, ils recevaient des appels de la CAQ pour leur dire que c'était pas une bonne idée.
Ouais.
Ils voulaient garder les publicités, de fermer le gueule. On a vu ce qui est arrivé avec Radio X aussi. On n'en parlera pas.
Mm-hmm.
Gérald Filion, qui est quand même pas un polémiste épouvantable à Radio-Canada, dans l'économie, s'est fait tweeter à 10 heures le soir par le premier ministre pour lui dire que ses chiffres, ça marchait pas. Puis il prenait des semaines pour faire son affaire.
Ouais.
Le premier ministre Legault qui a accusé un journaliste de la Gazette qui a sorti le scandale du CHSLD Aaron à Montréal.
Qui est le seul qui pose des questions qui ont de l'allure.
C'est ça. Il a dit que c'était un pseudo-journaliste puis il l'avait bloqué sur Twitter. T'sais, on voit vraiment que ce gars-là est pas très tolérant de la démocratie puis de la liberté d'expression. Et c'est une grave dérive. Puis ça explique peut-être, malheureusement, pourquoi sa cote de popularité est encore élevée. Parce que je regarde aux États-Unis, rappelez-vous que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, on disait que c'était le François Legault des New Yorkais, hein, François Legault des États-Unis au début de la crise. Mais sa crise, sa cote de popularité est passée de 72 à 38% les dernières semaines.
À 38, ça m'étonne déjà, là, le gars est carrément un agresseur.
Ben c'est ça, mais ça continue de descendre, alors que DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui était le chef des déconfineurs des États, on voit que lui, sa cote de popularité n'arrête pas de monter. Puis il y a même des gens de plus en plus qui le voient comme l'aspirant candidat pour les Républicains pour la prochaine élection présidentielle. Donc, on voit que les déconfineurs, on le vend dans les voiles, on voit que les confineurs sont en chute libre, mais au Québec, on n'est pas encore rendu là. Peut-être parce que médiatiquement, justement, il y a eu plus de présence puis plus de messages gouvernementaux, mais ça va revenir, là, parce que veut pas, on va sentir l'impact de la crise. Là. Puis toutes les ce que je parlais tantôt, là, l'économie, la détresse psychologique, les enfants dans les écoles, ça, là, c'est des impacts qui vont durer des mois, des années. On va le sentir de plus en plus comment cette crise-là nous frappe.
Pas de doute. Comment ça fonctionne l'adoption du programme? Il y a déjà un programme présent au Parti conservateur, mais t'es pas obligé de le prendre.
Non, c'est ça. Il y a des éléments, moi, avec lesquels je suis pas à l'aise. Je l'ai dit pendant la course au leadership. C'est sûr que le fait que j'ai eu un fort pourcentage des votes pour mon élection, ça m'aide. Il faut aussi savoir que le Parti conservateur, quand je vous ai annoncé ma candidature, il y avait 700 membres. Au moment où je vous parle, on en a plus de 14 000. Mmh. Ça continue d'entrer.
Ah oui.
Donc, c'est sûr que c'est plus le même parti. Là. C'est un parti qui est beaucoup plus gros. Mais il va y avoir un congrès l'automne prochain. J'espère que ça va être en présentiel. J'espère qu'on va avoir le droit de se rassembler. Mais on va faire un congrès pour adopter des propositions et se donner une base de programme là, en vue de l'élection d'octobre 2022. Puis c'est sûr, le plus gros changement avec le programme, je te dirais, moi, je suis un nationaliste, je suis un francophone, je suis québécois, je suis fier de mes origines, de mon identité. Et pour moi, c'est important d'inclure ça à l'intérieur du programme du parti.
Okay.
Ça risque d'être le principal changement par rapport à ce qu'on a connu historiquement au Parti conservateur du Québec.
Est-ce que c'est dû à une perte d'espoir que les anglophones de Montréal finissent par décrocher du Parti libéral? Tu vois ça comme impossible? Parce que ça aiderait quand même d'avoir une base sur cette île-là qui a beaucoup de circonscriptions quand même.
C'est pas un calcul électoral, c'est juste mes convictions personnelles. Moi, j'ai toujours pensé que, tu sais, moi, j'aspire à être chef d'un parti politique à l'Assemblée nationale, pas à la Chambre des communes à Ottawa. Pour moi, au Québec, la langue commune, c'est le français. J'ai rien contre les anglophones, au contraire, ils ont des droits historiques, puis je parle anglais, puis j'ai pas de problème du tout avec les anglophones, mais je veux juste qu'on comprenne bien que on a une spécificité au Québec. Puis c'est important. C'est quand tu veux t'aspirer à être premier ministre du Québec, parce que même si je suis dans un petit parti, là, c'est quand même ça, c'est l'objectif ultime, ça reste ça. Là. Tu veux être le leader du gouvernement le plus important contrôlé par les francophones en Amérique. Mmh. Il faut que tu aies ça en tête, puis il faut que la défense des intérêts de ces gens-là soit importante pour toi.
Sounds good. Juste une petite question personnelle. Je m'en vais en vacances. Oui. Moi, ça me fait penser que toi, t'es loin de là. Non, j'aimerais ça. Ça fait deux voyages que je me fais péter d'en face. Est-ce que tu projettes de prendre un petit break? Parce que là, ça dérouge pas.
J'aimerais ça parce que honnêtement, les 4, 5, 6 derniers mois ont été intenses. Puis là, je veux pas me plaindre là, parce que je sais que c'est intense pour tout le monde depuis un an. Je sais que même quand on a des vacances, c'est pas pareil. Hein, même si on sort pas du Québec, on a comme l'impression en quelque part qu'on est dans une prison. Puis veux pas quand tu fais, même avec le couvre-feu, puis avec tout est rendu compliqué. Tu sais, même aller faire ton épicerie, c'est plus compliqué qu'avant. On vit tous une année là, qui nous a pas donné de break, c'est le cas de le dire. Et je suis dans le même état d'esprit là. Je parle à mes parents qui eux sont justement encore dans le sud, sont pas revenus parce qu'ils attendent que le confinement soit fini.
Ça se comprend.
Mais ils vivent la liberté. Puis tu sais, les gens qui vont là-bas là. Quand ils entendent parler, puis ils arrivent là, puis c'est comme si on leur enlevait 100 livres sur les épaules. Là.
Ben oui.
La vie est facile. Ils retrouvent des choses que nous autres, ça fait tellement longtemps, ça fait 13 mois, on a perdu confiance de comment la légèreté de la vie normale. Et ça, j'ai très hâte de la retrouver, puisque même si tu prends une semaine de vacances là, chez vous, il y a comme une lourdeur présentement au Québec. Puis tant et aussi longtemps qu'on va être confinés et qu'on va avoir des couvre-feux, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle va nous suivre même en vacances.
La manif le 1er mai va-t-elle être présente?
C'est une bonne question. Écoute, j'ai participé, moi, à 4 manifestations depuis le début. Il y en a une que j'ai organisée ici à Québec. J'ai participé à la marche aussi d'Isaac Pépin là, sur les sports pour les jeunes. J'en ai organisé une, co-organisé une avec les restaurateurs de Québec dans l'Assemblée nationale. Puis j'ai participé il y a 2 semaines à celle avec les familles à Montréal. Mais pour celle de... C'était toujours pour des causes très précises.
Ouais.
Celle-là, je comprends qu'elle est plus générale. Je ne suis plus non plus juste un candidat à une élection dans une chefferie. Je suis rendu chef d'un parti, je représente des gens. Il faut que je m'assure que, tu sais, au niveau de la sécurité, au niveau des respects des règles, je ne veux pas me ramasser.
Tu peux pas être trop accolé au ce que j'appelle les sniffers de country. C'est sûr, c'est à faire attention.
Non, mais je veux pas promouvoir, puis je veux pas alimenter d'aucune façon la désobéissance civile. Moi, j'ai choisi la voie politique. Moi, je pense que quand on n'est pas content de ce qui se passe dans un État, ben on se bat sur la scène politique, on va dans un parti politique, on s'active, on se présente, puis ultimement la population nous juge. Mais c'est pas, je pense pas qu'il faut violer des lois. Moi, je veux les changer, les lois, je veux pas les violer.
C'est une belle terminaison. Merci, Éric Duhaime. Au plaisir.
Ça a été un grand plaisir. Au revoir.
À la prochaine, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Maintenant. Oh.